Ouais, voilà. Donc ça me dit que une pile dure. Parce que j'ai utilisé une pile pour ça au Togo pendant 10 jours. Ça fait combien de messages en tout 12 messages. Donc ça dure.
Maintenant, je dois la changer.
Ah ouais. Oui.
Donc, le fardeau concernant la captivité en Babylone, c'est quelque chose qui m'a touché avant même d'aller au Togo. C'était en lisant l'Ancien Testament. Hein, j'étais frappé par le thème.
Et je pense que ça a beaucoup de... Ça nous concerne, n'est-ce pas, en tant qu'une église, en tant que frères et sœurs qui suivent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui veulent avancer avec le Seigneur. Et surtout au niveau de la croissance, là où nous sommes, comment est-ce que nous pouvons avancer dans la vie de l'Église? Quelle est la prochaine étape, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Selon ce que j'ai constaté, et comme même les versets que nous avons lus en Jérémie, n'est-ce pas? Quand une église commence, il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur, il y a de l'amour pour le Seigneur. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, n'est-ce pas? On est... On cherche le Seigneur. Et donc, il n'y a pas de bonne méthode. Il n'y a pas de bon moyen. Tout marche. Tout fonctionne. Parce qu'on est jeune. On ne sait pas grand-chose. Peut-être qu'on fait même des erreurs. Mais le Seigneur nous bénit.
Amen.
Amen. Parce que notre cœur est pur. Notre cœur est frais. Pour le Seigneur. Et donc, quand une église, n'est-ce pas, donc, même avoir une vingtaine de frères et sœurs, parce que aux États-Unis, on a commencé, n'est-ce pas, une localité, une vingtaine de frères et sœurs, on a commencé à se rassembler. Mais de croître de 20 à 60, c'est-à-dire de se multiplier, n'est-ce pas, de 20 à 60, à 70, ce n'est pas facile. Et ensuite de croître de 60, 70, n'est-ce pas, etc. Il y a une autre étape. Il semble que le Seigneur il œuvre selon certains principes et que à chaque niveau, là où nous sommes, c'est toujours une lutte, un combat de chercher comment avancer. Parce que le danger, c'est que nous soyons satisfaits de ce que le Seigneur a fait parmi nous. N'est-ce pas? Et la croissance, la multiplication viendra. n'est-ce pas, même avec la naissance des enfants. Ça c'est, ça c'est, n'est-ce pas, c'est automatique, c'est vraiment. Mais même ça, comment élever, comment est-ce que notre deuxième génération, parce que maintenant on peut commencer à parler d'une deuxième génération, n'est-ce pas, comment est-ce que notre deuxième génération peut aimer le Seigneur, peut comment est-ce que ce que nous avons vu peut devenir les leurs? Comment est-ce que ce que nous avons vu, la vision que nous avons vue, l'engagement, comment est-ce que eux, ils peuvent voir quelque chose qui leur appartient? Donc, ce n'est pas seulement que, n'est-ce pas, Christ est le Christ de mon papa, mais Christ est mon Christ. Le Seigneur est mon Seigneur. Nous, nous avons expérimenté ça, n'est-ce pas? Nous avons vu Christ pour nous-mêmes. Oui, nos parents, peut-être, ou peut-être pas, mais nos parents, n'est-ce pas, ils ont aimé le Seigneur, ils nous ont appris certaines, enseigné certaines choses, mais éventuellement, nous sommes arrivés à un point où nous avons vu, comme Pierre, n'est-ce pas, tuer le Christ. Le Fils du Dieu vivant. C'est pas le Christ de mon père, pas seulement le Christ de mon père, pas seulement le Christ de ma mère, mais c'est mon Christ. Et quoi qu'il arrive, je serai fidèle à ce Christ. Parce que je l'ai vu, je l'ai expérimenté moi-même. Et ça, c'est une crainte, voilà, même avec mes enfants, avec notre deuxième génération, c'est toujours un fardeau. Que comment est-ce que, pourquoi est-ce que nous perdons, là aux États-Unis, je parle, pourquoi est-ce que nous perdons si facilement notre deuxième génération? Je ne sais pas, mais je sais que ça doit commencer avec moi en tant que père. Donc si moi je n'aime pas le Seigneur, c'est moi, ou si moi je ne suis pas le Seigneur, si moi je ne me donne pas au Seigneur, comment est-ce que mes enfants vont se donner au Seigneur? Bon, bien sûr, et nous savons ça, bien sûr, en fin de compte, c'est tout à fait grâce à la miséricorde du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, qu'une personne, qu'un enfant, qu'un jeune puisse suivre le Seigneur, c'est la miséricorde du Seigneur. Mais nous, nous avons une responsabilité. Et autant que possible d'être avec nos enfants, d'être avec notre deuxième génération pour leur enseigner, n'est-ce pas? Pour leur, mais pas seulement par la parole, mais par notre exemple, notre vie, notre manière de vivre. Comment est-ce que moi, je suis devant le Seigneur? Tel sera, n'est-ce pas, l'influence sur mes enfants. Je ne sais pas s'ils vont suivre. Ça, c'est, en fin de compte, c'est dans les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas m'absoudre de ma responsabilité. Voilà, et donc... voilà un peu, je vous partage un peu mon expérience, parce que, comme vous le savez, j'ai été à Montréal, au Canada, depuis assez longtemps. Ma famille était aux États-Unis, et nous n'étions pas ensemble. il est arrivé un moment où ma femme, n'est-ce pas, et moi, nous avons décidé de ne plus continuer comme ça. Donc, c'était que soit elle déménage au Canada ou moi je rentre aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais nos enfants, ils ont grandi maintenant. Ils ne sont pas des adolescents. Ma fille va se marier en avril. Elle aura 24 ans. Mais les deux autres enfants, n'est-ce pas? Enfin, tous les trois, pour être ensemble et pour que le père soit là, pour que moi je sois là, pour être avec eux. Bon. Et donc, je pense que le Seigneur m'a parlé et j'ai pris ça du Seigneur. Et donc, j'ai décidé, avec beaucoup de communion avec les frères, de rentrer, être avec ma famille. Et je vois que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a un combat, il y a un... Et souvent, je demande au Seigneur, Seigneur, comment faire aimer quelqu'un, comment amener quelqu'un à aimer le Seigneur? C'est facile d'en parler avec les autres, mais quand il s'agit de vos propres enfants, c'est pas tellement facile. C'est facile de dire aux autres d'aimer le Seigneur. Donc c'est facile pour moi de vous dire d'aimer le Seigneur. N'est-ce pas? Parce que je ne vis pas parmi vous, n'est-ce pas? C'est... Bon, vous me connaissez un peu, mais vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas? Mais vivre avec quelqu'un. Ah. Et puis, de les amener à suivre le Seigneur, ça c'est autre chose. Donc, même en rentrant à Chicago, et même la vie de l'église là-bas est différente de la vie de l'église à Montréal. Bon, ce sont deux églises, n'est-ce pas, différentes. Donc, c'est pas facile. Donc, moi, le Seigneur m'a parlé, m'a touché beaucoup pendant cette période de transition. Je suis en captivité. Souvent, je suis en captivité. Mes préférences, je préfère même une certaine vie de l'église. Je préfère une certaine ambiance. Là où je peux opérer, je peux, n'est-ce pas, faire quelque chose selon mon gré, ma volonté, n'est-ce pas, on commence à s'habituer. Et le Seigneur voulait me parler. Non, toi tu n'es pas pour là, pour ça. Tu es pour moi. Tu n'es pas pour une certaine vie de l'église, selon ta préférence. Tu n'es pas pour même mon œuvre, l'œuvre du Seigneur, dans un certain milieu. Tu es pour moi. Tu es pour mon œuvre, ta vie. Mais c'est mon œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. Donc c'est là où le Seigneur veut que j'aille. Est-ce que je suis prêt à le suivre? Et si j'hésite, si je proteste, n'est-ce pas? Ça indique que je suis en captivité. Mais non, je sers le Seigneur, oui, mais je suis en captivité. Donc, mon expérience est... Bon, c'est pas facile. Même après des années de connaître le Seigneur, de suivre, autant que possible le Seigneur. Il semble que je ne le connais pas. Seigneur, qui es-tu? Toujours cette question, comme Paul, n'est-ce pas? Comme Paul, il a posé la question tout au début. Seigneur, qui es-tu? Mais même plus tard, vers la fin de sa vie, il a posé la même question. Dans Philippiens, n'est-ce pas, il dit que je puisse le connaître. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore connu que je puisse le connaître, n'est-ce pas, et la puissance de sa résurrection. Donc, Paul était toujours en train de demander au Seigneur, « Seigneur, qui es-tu ?» Et la deuxième question, « Que veux-tu que je fasse ?» N'est-ce pas? Donc, ces deux questions me reviennent souvent pour me sauver, pour m'avertir de ma condition devant le Seigneur. Est-ce que je suis en train de poser au Seigneur ces deux questions? Seigneur, qui es-tu? Afin que je puisse te connaître. Seigneur, que veux-tu que je fasse afin que je puisse être un avec ton désir, avec ton œuvre? Parce que tu es en train de faire quelque chose dans le monde, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que nous sommes par rapport à la personne du Seigneur et par rapport à l'œuvre du Seigneur, à son désir? Ça sera une, on peut dire, une mesure de notre condition devant le Seigneur. Donc, en rentrant à Chicago, j'ai expérimenté plusieurs choses, n'est-ce pas? Même la nature de mon service est un peu différente. Et les frères avec qui je collabore sont différents, n'est-ce pas? Donc, je dois apprendre à chercher le Seigneur. Parce que quand vous connaissez les frères, c'est facile. N'est-ce pas, c'est... Bon. Et même il y a des problèmes, il y a des obstacles, bien sûr. Mais c'est facile de trouver un niveau où vous pouvez fonctionner, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes placé dans une situation là où les frères sont un peu différents, peut-être même le fardeau est un peu différent, ce que vous êtes en train de, vous avez l'habitude de faire selon la façon dont vous voyez les choses, il y a un autre frère qui ne voit pas la même chose. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez est-ce que vous allez l'écouter ou est-ce que vous allez n'est-ce pas, mettre à côté votre fardeau? Non, c'est pas. Donc il faut le Seigneur, n'est-ce pas? Il faut renoncer, n'est-ce pas, à beaucoup de choses, renoncer à la vie d'âme, mais pas forcément renoncer au fardeau. Vous voyez? Donc, donc toutes ces choses-là, n'est-ce pas, ils jouent un rôle, n'est-ce pas, pour nous rapprocher du Seigneur, pour nous montrer que sans le Seigneur, tout notre service, toute notre opération manque, peu peut manquer la réalité. Elle semble réelle tant que, n'est-ce pas, tout va bien. Mais quand il y a quelque chose qui change, c'est comme si le Seigneur, n'est-ce pas, il met son doigt ou quand la machine, la roue, n'est-ce pas, ça roule. Mais quand vous mettez quelque chose dans les rayons de la roue, ça gâte tout, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes capables de connaître, de revenir au Seigneur, pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas pour ces choses-là, je suis pour toi, ton désir. Donc, c'est toujours une épreuve. Et donc la condition du peuple de Dieu dans la Bible, n'est-ce pas, c'est exactement comme ça. Si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, ils connaissaient les actes de Dieu, mais pas les voies de Dieu. C'est facile de connaître les actes et de vivre selon les actes. Mais quand Dieu change, apparemment, il change ses actes, il ne fait plus les mêmes actes. Où est ce Dieu en qui j'ai eu confiance? Qui est ce Dieu qui a changé mon programme? Non, qui a changé son programme. Il est devenu mon programme. Et donc, Dieu est toujours en train de nous rappeler. Connaissez mes voies. Hein? Il faut me connaître. Parce que les voies de Dieu ne changent pas. Mais ses actes peuvent changer. Amen. Donc, ça c'est un peu une introduction. N'est-ce pas? C'est... selon mon expérience, je lutte et ma femme aussi, parce que là à Chicago maintenant, je suis, on vient d'acheter une salle de réunion et on n'a pas eu de salle de réunion depuis longtemps. Comme vous, n'est-ce pas, vous rassemblez à jamais, n'est-ce pas, dans l'école. Oui, et même à Montréal, il n'y a pas de salle de réunion. Donc, c'est d'une part, bon, oui, on veut une salle de réunion, n'est-ce pas, mais d'autre part, pour nous, pour moi, je préfère ne pas avoir une salle de réunion parce que on n'a pas besoin de s'occuper de la salle de réunion. Oui, c'est... Oh, vous avez une salle de réunion. Vous aurez beaucoup, beaucoup de soucis. Non, je ne vous dis pas de ne pas acheter une salle de... C'est le Seigneur. Non, peut-être que Frère Jerry et les autres frères vous ont encouragé de... Donc, allez-y. Mais je vous avertis que... Ne pas avoir une salle de réunion, c'est une bénédiction parce que vous pouvez aller là-bas, n'est-ce pas, à 9h et puis à midi, à 1h, à 13h, vous quittez, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de... Avec une salle de réunion, et là, parce que moi j'ai expérimenté ça, n'est-ce pas, avant. Qui va faire le ménage? Qui va. Et donc, ma femme, je lui ai parlé avant de venir à Abidjan. Elle a dit que les frères allaient dimanche qui vient, passer une feuille de papier à tous les saints pour leur demander dans quel domaine, là, comment est-ce que vous voulez servir. N'est-ce pas, quand, lorsque nous aurons la salle de réunion, comment est-ce que vous voulez servir? Et ma femme était un peu inquiète parce que je ne savais pas. Oh, maintenant, donc ça veut dire que samedi matin, il faudra nettoyer. Et faut... ah, c'est. Chaque semaine, il faut maintenir, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la vie de l'Église va changer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Notre service va peut-être changer. Notre opération va changer. Est-ce que je suis prêt? Nous sommes prêts à changer. Pour suivre le Seigneur. Et même quand nous aurons la salle de réunion, nous nous rassemblerons avec beaucoup de frères et sœurs chinois. Ça veut dire qu'il y aura deux langues, l'anglais et le chinois. Et les anglophones ne connaissent pas le chinois. Mais beaucoup de Chinois savent l'anglais, n'est-ce pas? Mais ils s'expriment mieux en chinois. Donc, il y aura une réunion, n'est-ce pas, en anglais et en chinois. Et et même les cantiques qu'on va chanter seront peut-être différents parce que avec parmi les anglophones, surtout les jeunes, il y a beaucoup de cantiques contemporains. Enfin. Qu'on aime chanter, n'est-ce pas, des cantiques qui sont un peu vibrants avec de la guitare, les guitares, n'est-ce pas, le piano, oui, etc. Tandis que, n'est-ce pas, les frères et sœurs chinois, ils préfèrent, enfin, ils chantent, n'est-ce pas, des cantiques qui sont un peu plus quoi. Ah. Mais des cantiques qui sont assez profondes, n'est-ce pas, même sur la croix, ou des chansons de languir, de chercher le Seigneur, un peu plus lent, n'est-ce pas? Alors, et donc, comment être ensemble? Comment? Oui, c'est facile de dire, ah, nous sommes tous un, n'est-ce pas? C'est tous frères et sœurs, et c'est vrai, oui. Et d'autre part, comment faire là où, pour que tout le monde puisse avoir le sentiment qu'on est tous, qu'on fait tous partie de l'Église. On est tous, chaque contribution, chaque frère et sœur est crucial. Donc, voilà, donc ce n'est pas une réunion chinoise, ce n'est pas une réunion anglaise non plus. C'est une réunion de l'Église. Mais ça veut dire que il faut, n'est-ce pas, il faut que moi, je renonce à ma vie d'âme, n'est-ce pas, pour mettre à côté mes préférences. Et voilà. Donc, la captivité. Je suis rendu compte, à beaucoup de choses, je suis captif. Et donc, j'ai besoin d'être libéré. Donc, voilà un peu donc d'où ces messages. Voilà. Normalement, les messages le fardeau que j'ai, c'est selon mon expérience, ce que je suis en train de vivre. Donc, normalement, c'est pas un. Oui, c'est pas la lecture de la Bible, mais basé sur mon expérience. Donc, ce que j'ai à vous partager est quelque chose de frais en moi, quelque chose que j'ai vécu un peu, que je vis encore. Et donc, la source de ces messages. Donc, je ne sais pas si, parce que franchement, j'ai pas été avec vous, donc, mais je sais que vous allez pense que vous allez apprécier quand même le fardeau et j'espère que ça va vous aider. Ça va nous aider, n'est-ce pas? Il y a pas mal d'histoires et j'aime l'histoire. Donc ça c'est... Je ne sais pas si tout le monde aime l'histoire. Peut-être que vous allez vous endormir quand vous écouterez les dates et la chronologie. Mais quand je dis la Bible, surtout les livres d'histoire, j'aime toujours faire une suivre la chronologie. J'aime savoir autant que possible quel roi, n'est-ce pas, en quelle année tel ou tel roi a commencé à régner. De plus en plus, j'aime avoir cette perspective. Et Dieu aussi, il fait attention aux dates. Il fait attention à la période. 70 ans, n'est-ce pas? Voilà, 70 ans de captivité. Nous allons voir pourquoi 70 ans. Dieu a donné, n'est-ce pas, une certaine période de temps. Même il a dit à Abraham, ta postérité rentrera en esclavage pendant 400 ans, n'est-ce pas? Donc Dieu est très précis, il précise des dates, n'est-ce pas? La longueur, la durée, n'est-ce pas? Alors il y a une raison. Voilà. Bon, ok, donc on commence, n'est-ce pas, message 1, vous suivez les grandes lignes, et nous allons ajouter des choses au fur et à mesure que nous avançons, peut-être des versets, des références bibliques. Parce qu'en relisant les grandes lignes, et même en partageant ces messages au Togo, le Seigneur m'a rappelé d'autres versets, d'autres choses, n'est-ce pas? Donc, il y aura des modifications. Bon, donc... La captivité du peuple de Dieu, prophétisée par le prophète Jérémie. Jérémie joue un rôle crucial dans l'Ancien Testament. Et quand il s'agit de la captivité, Jérémie est peut-être le prophète principal qui est impliqué. Parce que c'est lui qui a lui-même, il a été amené captif. Et aussi, Jérémie et aussi Ézéchiel. Les deux prophètes, Jérémie et Ézéchiel, ont été eux-mêmes amenés captifs. Et ces deux prophètes ont vécu, ils ont expérimenté. Ils ont passé par des états, des expériences que le peuple d'Israël expérimentait. N'est-ce pas? Donc, ces deux prophètes, Jérémie et Ézéchiel, ils devaient vivre eux-mêmes ce que leur peuple vivait. Vous voyez? Donc, Jérémie, Dieu a utilisé Jérémie pour avertir, pour enseigner, pour supplier le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Vous lisez Jérémie, ah, il est, c'est un prophète.
Moi, je ne voudrais pas être comme lui. Moi,
je préfère écrire des lettres chez moi et les envoyer.
N'est-ce pas? Aux autres. Mais lui, il était obligé de se mettre en plein milieu de la situation.
Dieu était sévère. Dieu est sévère.
Vous pensez que Dieu est bon? Dieu est... Ouais. Oui, il est bon. Vous pensez que Dieu est doux?
Vous pensez que Dieu est... Vous pensez que Dieu est, est plein de compassion?
Oui.
Mais Dieu est sévère, surtout envers ceux qui le connaissent.
Donc, si vous ne voulez pas que Dieu vous soit, soit sévère, il vaut mieux ne pas le connaître autant.
Parce que c'est toujours comme ça. Il semble que Dieu ait beaucoup plus de compassion envers les autres qui n'ont pas, n'est-ce pas, n'ont pas grand-chose. Ils ne suivent pas ou ils ne sont pas, selon nous, ils ne sont pas aussi consacrés.
Alors Dieu leur permet de faire toutes sortes de choses. N'est-ce pas? Il leur... Tandis que moi, n'est-ce pas, ou nous,
Dieu ne nous permet pas.
Même si nous voulons le faire. Il est sévère. Il est... Donc, Jérémie, n'est-ce pas, Dieu était sévère. Bon. Mais avant, je voulais vous donner un survol, n'est-ce pas, de... Lancer des semences, un peu, n'est-ce pas?
Le peuple de Dieu, comment est-ce que...
Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous le connaissez déjà. Peut-être qu'il y en a certains, n'est-ce pas, qui ne le connaissent pas encore.
Et je pense que c'est bien de réviser,
d'aller en arrière, n'est-ce pas, pour tracer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Depuis le début, depuis la création, que veut Dieu?
Ok, je vous demande.
Comment vous appelez-vous?
Dorcas.
Hein? Dorcas, ok.
Ah oui.
Et il n'y a pas de réponse, de fausse réponse. Ok, donc,
ne n'ayez pas peur. C'est juste pour avoir la communion, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut?
Ça va, il n'y a pas de réponse correcte. Donc, allez-y.
Si on vous demandait, par exemple, votre ami, votre camarade de classe, vous êtes à l'école, n'est-ce pas? Ah, ok. Bon, votre voisine vous demandait. Que veut Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu? Quel est le désir de Dieu? Oui, qu'est-ce qu'il veut? Ok, ça c'est bien. Oui, amen. Il cherche des fidèles. Oui, voilà. Très bien. Oui, voilà. Oui, Dieu cherche quelque chose, n'est-ce pas? Il cherche, oui. Ça veut dire que Dieu a une volonté, n'est-ce pas? Il a une volonté. Et comme nous, n'est-ce pas? Nous avons une volonté, n'est-ce pas? Nous cherchons, n'est-ce pas? Nous cherchons un époux ou une épouse. N'est-ce pas? Nous cherchons quelqu'un. Oui, Dieu cherche des fidèles. Et depuis le début, n'est-ce pas? Dieu cherche quelqu'un qui soit fidèle à lui. N'est-ce pas?
Mais comment être fidèle? Comment trouver quelqu'un qui est fidèle?
Comment trouver quelqu'un qui est fidèle?
La fidélité n'arrive pas tout d'un coup,
n'est-ce pas? C'est il y a quelque chose qui arrive, qui se passe, n'est-ce pas?
Même pour qu'un mari ou une femme soit fidèle
à l'époux, n'est-ce pas, au conjoint,
il y a quelque chose
qui se passe, n'est-ce pas? Il y a
un processus, il y a la fidélité, toutes les vertus,
n'est-ce pas?
Toutes les vertus ne se produisent pas automatiquement. Il y a un processus. Donc, Dieu cherche des fidèles. Mais comment être fidèle?
Alors, je vous demande, ok, deuxième question.
Ok, pour tout le monde, pour tout le monde. Qui est fidèle?
Bon, peut-être, ok.
Qui est le plus fidèle?
Dans l'univers, dans le monde. Dieu.
Amen. Oui. Et ça, c'est... Oui. Donc, quand il s'agit de quelque chose de positif, la réponse est toujours Dieu. Donc, ça, c'est... Amen.
Non, oui, c'est simple, n'est-ce pas?
C'est pas... oui. Donc, Dieu est fidèle, n'est-ce pas?
Est-ce que nous sommes fidèles?
Parfois, oui, nous sommes fidèles. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, tout ce que Dieu est reflété dans la création de l'homme. Même l'homme à son pire, dans son, n'est-ce pas, le pire homme, l'homme le plus mauvais, a quelque chose de Dieu. Difficile à croire, mais si vous grattez, vous,
bon, il faut aller même plus, beaucoup plus,
plus loin. Mais si vous pouvez toucher la corde, n'est-ce pas? Il y a des cordes là, des clés comme dans un piano, n'est-ce pas? Il y a des clés qui n'ont pas été qui fonctionnent mal, qui n'ont même pas été utilisées. Mais si vous touchez sur le clavier ces clés là, elles vont
à produire de la musique.
Voilà pourquoi un homme peut être sauvé. Voilà pourquoi il est possible qu'un homme, n'importe quel homme,
même le pire,
puisse être sauvé. Parce que il y a quelque chose en lui
créé par Dieu.
Vous voyez? Donc, Dieu, n'est-ce pas, en nous, il y a quelque chose de Dieu, nous sommes créés. Mais Dieu veut, il veut graver, comme la chanson que nous avons chantée, il veut se graver, il veut s'œuvrer, il veut entrer en nous pour se mettre en nous. C'est-à-dire que pas seulement que nous soyons créés à son image, avec ses vertus, mais il veut même devenir notre existence. Il veut s'œuvrer, il veut devenir notre vie.
Et donc, pour ça, il a besoin des vases. Il a besoin des vases. Donc, si vous pouvez, même, surtout les jeunes, n'est-ce pas, cette semaine, vous pouvez vous souvenir de ce mot, vase, n'est-ce pas, un conteneur. Nous sommes des vases, et Dieu cherche des vases pour se mettre dedans. Et depuis le début, Dieu cherche des vases. Qui peut remplir, qu'il peut, en qui il peut devenir la vie, et il peut vivre sa vie dans ses vases, à travers ses vases. Un vase contient quelque chose. Mais le problème, c'est que, en tant que vase, nous contenons beaucoup de choses qui ne sont pas Dieu, à cause du péché, n'est-ce pas? Donc, quand Adam a péché, n'est-ce pas? Il a chuté, il a désobéi à Dieu, il a reçu quelque chose qui n'était pas de Dieu. Et ce qui a créé une barrière, un mur entre lui et Dieu. Et depuis ce temps-là, l'homme, en tant qu'un vase, vit sa propre vie, indépendamment de Dieu. Même le meilleur homme, on a parlé du plus mauvais homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'homme a son pire. Mais l'homme a son mieux. L'homme a son mieux. Sans Dieu, vit une vie d'indépendance. Une vie qui n'a pas de valeur. Dieu dit, sans Dieu, il n'y a... La vie peut être bonne, la vie peut être, n'est-ce pas, satisfaisante, mais devant Dieu, elle n'a pas de valeur. Et donc, même pendant, n'est-ce pas, des moments, il y a des moments dans notre vie où nous avons ce sentiment, Seigneur, ou Dieu, je ne suis pas satisfait. Peut-être que j'ai tout, ou j'ai beaucoup de choses, mais sans Dieu, sans le Seigneur, il y a un manque. Il y a un manque. Et donc, l'homme essaie de se remplir, de se rassasier, en suivant beaucoup de choses. N'est-ce pas? Les mauvais hommes, l'homme, n'est-ce pas? Ceux qui vont parler, n'est-ce pas? Et les meilleurs hommes. Mais tous les deux, n'est-ce pas? Ne correspondent pas. Ni l'un ni l'autre ne correspond à Dieu, à la volonté de Dieu. Donc, le pécheur, on peut dire entre guillemets, parce que nous sommes tous pécheurs, mais le pécheur, ah, celui, n'est-ce pas, le pécheur dans la rue, qui s'énivre, n'est-ce pas, et le soir, il bat sa femme, n'est-ce pas, et il fait d'autres choses. Sa vie, quelle sorte de vie est-ce, n'est-ce pas, nous demandons, sans valeur. Mais en même temps, n'est-ce pas, l'homme sophistiqué, n'est-ce pas, l'homme bon, qui va au travail chaque matin, qui rentre à la maison, chez rejoindre sa femme chaque soir, il travaille pour s'occuper de sa famille, très bon, mais sans Dieu, sa vie aussi sa vie n'a pas de valeur.
Difficile à distinguer, parce que l'homme naturel, ah, nous penchons vers le deuxième, n'est-ce pas? Oui. Et humainement, oui, le deuxième est meilleur, beaucoup meilleur, oui. N'est-ce pas? Absolument. Mais aux yeux de Dieu, Dieu regarde. Quand Dieu regarde, il a une mesure. Et c'est lui-même. N'est-ce pas? Ça, c'est Dieu. Donc, Dieu est sévère. Dans ce sens-là, Dieu est sévère. Dieu juge selon lui-même. Nous jugeons selon l'apparence. N'est-ce pas? Nous pesons beaucoup de choses et puis nous jugeons. Mais Dieu juge selon seulement un critère, et ça c'est lui-même. Avons-nous Dieu ou n'avons-nous pas Dieu? Voilà. Mais j'ai Dieu, oui, mais je vis ma vie. Voilà, n'est-ce pas? Voilà la captivité. Non. Alors, donc, Dieu cherche, n'est-ce pas, des vases. Et donc, éventuellement, il a appelé Abraham, n'est-ce pas, un homme qui vivait. Est-ce que vous connaissez Abraham? Oui, dans la Bible. Oui, qui est, ok, c'est bien, oui, Amen. Abraham, n'est-ce pas, un homme qui vivait en Chaldée, un idolâtre, un homme comme nous, n'est-ce pas, qui vivait sa vie, Dieu l'a appelé. Dieu lui a apparu, le Dieu de gloire. Il a apparu. Et Abraham l'a vu. Et il a répondu. Il a répondu à Dieu. Comment est-ce qu'un homme a pu quitter son pays, sa patrie, sa famille, n'est-ce pas, pour aller se déplacer, suivre quelqu'un sans savoir où il allait? Vous voyez, c'est curieux. La Bible ne nous donne pas beaucoup d'indices. Comment est-ce que Abraham a... Qu'est-ce qui est arrivé? Et ça, c'est notre cas aussi. Est-ce que nous pouvons expliquer, chacun d'entre nous, comment nous avons été sauvés? Comment est-ce que... Mais oui, nous pouvons donner le témoignage. Mais... Même après le témoignage, ça va être difficile de savoir comment un homme, comment une femme a pu se confier à Dieu sans l'avoir vu, n'est-ce pas, sans l'avoir touché physiquement. C'est un mystère, n'est-ce pas? Même, c'est de la... Pour beaucoup de gens, c'est de la bêtise. Ben, on dit ça, n'est-ce pas? Oh, vous croyez à des contes de fées, c'est ça. La Bible... Oh, peut-être pas ici en Afrique, mais aux États-Unis, là, même ici. Oui. Oh, c'est... Donc, la Bible mentionne les faits. Le Dieu de gloire a apparu à Abraham. Et il s'est levé. Il a tout quitté. Mais comment? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui pousse un homme à tout quitter? Ah oui, c'est Dieu. Oui, mais... mais comment Dieu? Quel Dieu? Comment est-ce que Dieu peut faire ça? Ça veut dire que Dieu, Abraham a eu une expérience personnelle. Et donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, nous avons besoin d'une expérience personnelle de Dieu. Nous apprenons beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et c'est bien. Mais à un certain moment, Dieu doit être réel. Je dois toucher Dieu moi-même pour que je puisse dire: Dieu, tu es mon Dieu. Donc, Abraham, le Dieu, et Dieu est devenu le Dieu d'Abraham. Vous voyez, avec Abraham, bon, peut-être que vous savez que Abraham, n'est-ce pas, on parle de lui comme étant quelqu'un qui était un homme de foi, n'est-ce pas, un homme de foi, etc. Mais ce matin, il y a une expression qui me frappe. Ça, c'est le Dieu d'Abraham. Donc, quand Dieu parle dans l'Ancien Testament, il parle, quand la Bible parle d'Abraham, elle dit souvent le Dieu d'Abraham. Et, n'est-ce pas, son fils Isaac et son petit-fils Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Amen.
Des vases, ce sont des vases, n'est-ce pas, que Dieu a suscité, que Dieu a appelé, que Dieu a... Il a œuvré dans ces vases pour que ces vases le connaissent, pour que ces vases lui appartiennent, pour que ces vases ne soient que pour Dieu. Donc Dieu, il veut des vases qui sont uniquement pour lui, pour son plaisir. Vous voyez, ça c'est avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il y a cet aspect. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces trois hommes? Pas grand-chose. Vous lisez leur histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déplacés, n'est-ce pas? Ils ont érigé, ils ont construit des hôtels. Ah, des hôtels pour adorer l'Éternel. Pas d'autres hôtels. C'était des hôtels. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. N'est-ce pas? Ils ont creusé des puits. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Et puis les Philistins, n'est-ce pas, ils ont bouché les puits et puis ils ont recreusé, n'est-ce pas? Oui, mais par rapport au monde, à la, n'est-ce pas, l'entreprise du monde, les accomplissements du monde, qu'est-ce qu'ils ont accompli? Rien. Et là, ils ont échoué. Des échecs. Ils ont vendu leur femme, n'est-ce pas? Bon. Et ils ont erré dans un pays que Dieu leur avait promis sans posséder le pays. De sorte que quand la femme d'Abraham est morte, Sarah,
Abraham n'avait même pas pour l'enterrer, il fallait obtenir, acheter, n'est-ce pas, un lieu d'enterrement pour sa femme. Ça, c'est des bases, n'est-ce pas, qui sont uniquement pour le Seigneur. Donc, de cet aspect, vous voyez, cet aspect de notre vie, qui sommes-nous? Nous sommes des vases uniquement pour le Seigneur. Alors, Seigneur, je ne sais pas quel est mon... Même, je ne sais pas quel est mon but, je ne sais pas quel est mon objectif, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne connais pas l'avenir, n'est-ce pas? Quand j'aurai 80 ans, ou si je vis si longtemps, quand j'aurai 85 ans, comment sera ma vie? Est-ce que je pourrai toutes sortes de choses? Je ne sais pas. Mais je sais que j'appartiens à Dieu. Et je suis Dieu, n'est-ce pas, comme un pèlerin sur cette terre, même sans savoir où aller. N'est-ce pas? Dans 5 ans, où est-ce que je serai? Je ne sais pas. Peut-être en Afrique, je ne sais pas. Mais qui sait, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas mon souci, n'est-ce pas? C'est, alors, je vis ma vie selon cet aspect. Je suis un vase pour le plaisir de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, ça c'est Abraham, ça c'est Isaac, ça c'est Jacob. N'est-ce pas? Éventuellement, Jacob, bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais c'est seulement des épisodes ici et là, n'est-ce pas? Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait même moins que son père. Ah, même moins. Tout ce qu'il a fait, il a fait les mêmes échecs que son père, et il a fait les mêmes... Il a creusé des puits, n'est-ce pas? Recreusé des puits. Bon. Et il est mort. N'est-ce pas? Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était plus actif, n'est-ce pas? Oui, vous voyez? Donc, Jacob, maintenant, avec Jacob, Dieu nous amène à un autre niveau. Vous voyez? Dieu veut des vases qui soient uniquement pour lui. Mais il veut des vases transformés. Des vases utiles. Vous voyez? Donc, voilà les deux aspects. Avec Abraham et Isaac, il y a l'aspect de quoi? Du plaisir de Dieu. Dieu prend plaisir en eux. Dieu prend plaisir en nous. N'est-ce pas? Nous sommes... Qui sommes-nous? Qui suis-je? Ma vie est pour Dieu. Mais ma vie a besoin d'être transformée. Ma vie a besoin d'être touchée. Et ça, c'est Jacob. Donc, Jacob nous amène à un autre niveau. C'est avec Jacob que nous commençons à connaître un peu le désir de Dieu. N'est-ce pas? Le témoignage de Dieu. Dieu veut être exprimé. Il veut un témoignage. Il veut un peuple. Pas seulement des individus qui se promènent avec Dieu. Dieu, je t'aime. Dieu, tu es mon amour. Dieu, je donne ma vie. Mais il veut aussi des vases qui sont transformés, des vases qui sont solides,
des vases qui peuvent passer par des épreuves pour être purifiés, pour exprimer Dieu lui-même. Alors, Jacob, c'est une vie de transformation, c'est une vie de l'œuvre de Dieu. Vous voyez ? Donc, vous voyez comment Dieu œuvre. Il est très patient. Dieu a tout le temps. Il a l'éternité, n'est-ce pas ? Parce que, donc, il va œuvrer petit à petit, n'est-ce pas ? Et il trouve Jacob. Et il prend plaisir à Jacob, parce qu'il dit, Jacob, j'ai toujours aimé, n'est-ce pas ? Parce que Jacob était quelqu'un qui était très, agressif. C'est quelqu'un qui voulait Dieu. Il voulait gagner la récompense. Il voulait. Et il a même devancé Dieu. Il n'a pas attendu, n'est-ce pas? Et donc, nous avons les deux côtés, n'est-ce pas? Abraham et Isaac, ils ont attendu Dieu. Ils ont attendu que Dieu fasse son œuvre. Jacob n'a pas attendu, dès le début, même avant d'être né. Il a lutté avec son jumeau, n'est-ce pas, Ésaü. Et même en sortant, puisqu'il n'a pas pu être le premier, il n'a pas accepté ça. Donc même en sortant le deuxième, il tenait, n'est-ce pas, par le talon, son aîné. Ça c'est Jacob. Donc, Dieu a besoin, vous voyez, Dieu a besoin de ses vases. Il a besoin de quelqu'un comme Jacob. Mais, un Jacob transformé. Mais, le caractère de Jacob, quelqu'un qui est agressif, qui veut, n'est-ce pas, ce que Dieu veut, à tout prix. Même, il va le gagner selon ses propres moyens. Oh. Dieu, il est d'accord. Je vais œuvrer avec cette personne. Parce que cette personne, il me comprend. Il me comprend. Donc, il a obtenu le droit d'aînesse de son frère, oui. Vous voyez, ça c'est Jacob. Et ça c'est notre vie chrétienne aussi. C'est que pour Jacob, comment est-ce qu'il allait obtenir le droit d'aînesse? Comment est-ce qu'il allait obtenir la bénédiction? Comment est-ce que, parce qu'au début, Dieu avait dit à sa mère, il y a deux nations dans ton ventre, et qui se luttent, et l'une servira l'autre, n'est-ce pas? Le plus jeune sera le plus grand, sera assujetti au plus jeune. Mais moi, je ne suis pas le plus grand. Alors comment est-ce possible? Lui, il est plus grand. Donc moi, je serai assujetti à lui. Alors je dois changer ça. Non, je dois, pour que le plus grand soit assujetti au plus jeune, il faut que le plus jeune
obtiennent le droit d'aînesse pour devenir plus grand. Voilà, ça c'est... Et ça c'est Jacob. Et donc, il a, n'est-ce pas, il a œuvré, il a planifié sa vie pour obtenir ça. Donc, je suis presque sûr. Bon, vous pouvez demander à Jacob quand vous le verrez, n'est-ce pas? Mais quand Ésaü est rentré de la chasse, c'était pas par hasard que Jacob était là en train de de cuisiner, n'est-ce pas? Non, Jacob était rusé. Il savait que son frère aimait la chasse, que son frère était allé à la chasse. Donc il était là stratégiquement, au bon moment, au bon endroit, lorsque son frère est rentré crevé de faim, et voilà, de la soupe préparée pour toi, n'est-ce pas? Et il connaissait son frère. Son frère était, n'est-ce pas, était simple. Il était son frère aimait la bonne vie comme son père, manger, boire. Il avait faim après trois jours, n'est-ce pas? Je pense que je ne sais pas si la durée est mentionnée. Non, c'est pas mentionné. Ok. Bon, mais assez longtemps, n'est-ce pas? On peut dire. C'est comme si Dieu avait, n'est-ce pas, fait cacher, avait envoyé les serfs, n'est-ce pas, pour que Ésaü puisse les chercher. Alors le cerf n'est pas venu, il n'a pas trouvé le cerf tout de suite. Non, le cerf était s'est absenté, s'est éloigné. Alors tout était préparé pour Jacob, Ésaü, n'est-ce pas, de vendre son droit d'aînesse. Et Jacob l'a obtenu. Et il a obtenu la bénédiction. Et Dieu, n'est-ce pas, a œuvré. Il a pris ce Jacob, n'est-ce pas, ce matériel qui était pour lui, pour les choses de Dieu, mais qui n'était pas, qui devait être œuvré, devait devenir un vase qui satisfaisait à Dieu, de faire les choses selon Dieu lui-même. Parce qu'éventuellement, Dieu lui avait montré, moi j'ai tout fait, j'ai tout préparé pour toi. Toi, tu n'avais pas besoin d'être rusé comme ça. Parce que moi, je suis Dieu. Mais de la part de Jacob, il voulait Dieu. Et Dieu apprécie cela. Donc même nous, n'est-ce pas, en tant que vase, nous voulons Dieu. Est-ce que nous avons cette capacité d'être agressif, de vouloir Dieu, je veux ta bénédiction, je veux ce que tu veux, et je suis prêt à payer le prix, je suis prêt à tout donner, n'est-ce pas, j'ai un tel cœur. Est-ce que nous avons un tel cœur? Éventuellement, Dieu va nous toucher. Dieu va œuvrer en nous. Mais Dieu ne peut pas œuvrer dans quelqu'un qui n'a pas ce désir. Vous voyez? Donc il y a toujours les deux côtés. Quand nous œuvrons, quand nous donnons à Dieu à tout prix, Dieu va nous dire, c'est pas toi, c'est moi qui a tout fait. c'est moi qui a tout fait. Toi, je t'ai choisi, même avant. Donc, tout ce que tu as fait, ce n'était pas toi-même, c'est moi. Mais quelqu'un qui dit, ok, donc Dieu, dans ce cas-là, tu fais tout, moi, ah, je me repose, tu vas tout faire. Dieu ne peut jamais se servir de cette personne. Non, Dieu ne peut pas tout faire. Oui, il peut tout faire, mais ça dépend de vous. Ça dépend de votre attitude. Si vous, vous faites tout pour lui, il aura déjà tout fait. Mais si vous ne faites rien, il ne va pas. Il ne va pas magiquement nous transformer. Non. Dieu œuvre avec ceux qui se donnent à lui.
Amen.
Mais quand il se donne à lui, Dieu va leur montrer que c'est lui-même qui les a attirés.
Amen.
C'est lui-même qui les a fait le suivre.
Vous voyez le paradoxe dans la vie chrétienne. Il faut les deux.
Donc, pour lire la Bible, exemple, n'est-ce pas? Ah, Dieu va, il va tout faire. Il va m'attirer à lire la Bible. Il va me diriger. Non, vous devez lire la Bible. Vous devez avoir le désir de lire la Bible. C'est vous qui devez faire tout l'effort de l'ouvrir, n'est-ce pas, pour le lire. Dieu ne va pas le faire pour vous. Ben, c'est, ouais. Si la, voilà un exemple pratique. Si la Bible reste fermée, n'est-ce pas, qui va... Oui, souvent un frère va venir vous l'ouvrir. Oui, ça c'est Dieu. Mais quand même, je dois vouloir, n'est-ce pas? Je dois vouloir Dieu. Il faut que moi, je désire Dieu. Dans ce cas-là, Dieu va œuvrer sur moi. Ça, c'est Jacob. N'est-ce pas? Toute sa vie, Dieu était en train d'œuvrer sur lui, de l'attirer, de le toucher. Même il a vaincu Dieu. Oui, quand il a lutté avec Dieu, il a vaincu. Dieu n'a pas pu le vaincre. Voilà un homme fort. Enfin, c'est... Et Dieu lui a dit, il a changé son nom en Israël. Mais, et il explique, parce que tu as lutté contre Dieu et tu as vaincu. Voilà. Donc, éventuellement, le nom de Jacob a été transformé en Israël. D'où, n'est-ce pas, le nom d'Israël. Actuellement, Israël, avec ses 12 fils, hein, qui sont devenus une nation, un témoignage, un peuple. Et ça, c'est... Voilà, nous arrivons maintenant à Moïse, enfin, Moïse, mais Jacob, c'est... On peut dire que Jacob, c'est la transition ou le pont entre, n'est-ce pas, Abraham et Moïse. Dieu cherche des vases, mais des vases individuels avec Abraham, Isaac, Jacob. Éventuellement, il va trouver un vase corporatif, un vase de son peuple, un peuple, une nation. Ça, c'est avec Jacob, réalisé pendant la période de Moïse. voyez, ça c'est un peu la progression, n'est-ce pas, de la révélation de Dieu. Brièvement. Et donc, ok, ok, oui. Ok, allez-y, oui. Donc, est-ce que, donc, le peuple, n'est-ce pas, les fils de Jacob, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, ils sont entrés en Égypte, n'est-ce pas, ils se sont déplacés, ils se sont installés en Égypte, et c'est là qu'ils ont commencé à habiter, en Égypte. Vous voyez? Et ils ont passé là, quoi? 400 ans, n'est-ce pas? 400 ans en Égypte. En tant que esclaves. Donc, le peuple de Dieu, n'est-ce pas? En esclavage. En Égypte. Et on peut dire que ça, c'est la première captivité du peuple, n'est-ce pas? Du peuple de Dieu. Une nation, n'est-ce pas? Qui avait été créée, mais qui ne connaissait pas encore Dieu. Et donc, ce peuple devait connaître Dieu. Et entre-temps, ils étaient en captivité. Donc, la captivité, n'est-ce pas, c'est une expression ou un reflet du manque de connaissance de Dieu. Donc, voyez comment Dieu a œuvré. Maintenant, ce n'est pas seulement des vases individuels, mais c'est un peuple dont il s'agit. Et on peut dire que c'est plus difficile, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un peuple va connaître Dieu? Si moi j'étais Dieu, moi je serais satisfait avec les bases individuelles. Pourquoi ce peuple? Non, mais des vases, Abraham, Isaac, Jacob, des gens, n'est-ce pas, des personnes qui aiment Dieu. Pourquoi se soucier de ce peuple, d'avoir un peuple. Oui, Dieu est... Il est grand. Mais il rêve. C'est un rêveur. C'est quelqu'un qui rêve. Et il est Dieu. Donc, nous, on peut dire que, oh, mais Dieu peut faire tout ce qu'il veut, ok. Non, mais, oui, mais, d'autre part, non, Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut.
Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Est-ce que Dieu est omniscient? Oui. Est-ce qu'il est omniprésent? Oui. Est-ce qu'il est omnipotent? Oui. Mais ce qu'il peut faire dépend de ce que nous lui permettons de le faire. Vous voyez, il y a les deux côtés, toujours, n'est-ce pas? Donc, Dieu, pourquoi te soucies-tu du peuple? Parce que tu auras beaucoup de maux, beaucoup de problèmes. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, oui, ça peut aller, n'est-ce pas? Mais tout un peu, ok. Ou bien, tu vas choisir des personnes. Ce que tu, n'est-ce pas, tu sais, n'est-ce pas, ceux qui vont t'aimer. Mais Dieu, le principe de Dieu, c'est de créer, de produire, de se multiplier. C'était son, n'est-ce pas, la décision finale, n'est-ce pas, le jour où Dieu a créé l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, etc., et qu'il se multiplie. Qui se multiplie? Oui. Voilà. Quelle attente, hein, quelle... Dans la mentalité de Dieu, d'espérer avoir une multiplication d'une race qui le connaisse, mais sachant tout de même qu'il y en aurait beaucoup qui ne le connaîtraient pas, mais voulant s'investir, Dieu voulait s'investir dans son dessein, n'est-ce pas, de créer, de produire une race comme ça, un peuple qui lui donnerait des problèmes incontable. C'est pas des soucis incroyables. Et Dieu était prêt. Dieu était prêt à ce niveau. C'est pas jusqu'à ce point. Ça, c'est Dieu. C'est pas, il veut une expression. Il veut un témoignage. Donc, il nous reste... Bon, je m'arrête dans quelques minutes. Donc, comment est-ce que ça nous concerne? En tant que l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes son expression, le peuple de Dieu. Chacun d'entre nous est important. Dieu attend quelque chose de chacun d'entre nous. Et de beaucoup plus. Tous ceux qui viendront au Seigneur feront partie de l'Église. N'est-ce pas? Ils sont tous, Dieu veut que tout le monde le connaisse. Du plus grand jusqu'au plus petit, n'est-ce pas? C'est avec tous les problèmes, avec tous les... Toutes les opinions différentes, tous les moyens de voir les choses différemment, tout ça, Dieu veut une multiplication. Il veut un peuple. Pas seulement des vases, mais un vase corporatif qui est l'Église. Alors, ça c'est, n'est-ce pas, un peu... c'est un peu d'histoire concernant le dessein de Dieu, le désir de Dieu.
Et on va voir dans l'après-midi, n'est-ce pas, comment ce peuple, maintenant, ce peuple en Égypte, comment ce peuple évolue de l'Égypte, n'est-ce pas, jusqu'à la Vendée, de l'Égypte jusqu'au désert, jusqu'à la Vendée, et puis dans le bon pays, n'est-ce pas, sur la Vendée, comment ce peuple a évolué, comment il a suivi Dieu, comment il s'est éloigné de Dieu. Et ça, c'est notre cas aussi, notre condition. C'est dans l'évolution de l'Église, nous passons par des étapes, nous passons, n'est-ce pas, par des périodes de croissance, d'avancement, et aussi des périodes de captivité, de chute. Alors, notre histoire, notre vie est tout à fait la même que la vie des enfants d'Israël. Nous allons voir. Les mêmes défis, les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes choses avec lesquelles eux, ils luttaient, nous aussi. Nous avons les mêmes luttes. Et ce qui est le plus grave ou le plus difficile, c'est de penser que tout va bien, de penser que il n'y a pas de problème. Et ça, c'était le cas des enfants d'Israël. Ils avaient tout et ils étaient contents. Et donc, même reconnaître que il y a quelque chose de plus. Dieu, il y a quelque chose de plus. Dieu, même moi, je suis arrivé à un niveau. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse? Vous voyez? Dans la croissance d'une église, c'est ça. Et donc, on va toucher, même pratiquement, dans notre service. Seigneur, que veux-tu? Où veux-tu que je serve? Comment veux-tu que je serve? Mais je te sers depuis longtemps. Je te sers effectivement, n'est-ce pas, efficacement, de cette manière. Oui, mais maintenant, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux toucher, Seigneur, tu veux toucher, fais-moi savoir. Voilà, donc ça c'est un peu, donc je m'arrête, peut-être qu'il y a des témoignages ou des questions, voilà, juste quelque chose qui...
Dieu ne veut pas un esprit, mais il a désiré un peu.
Amen.
Donc, ça, c'est un